cette histoire de être en temps réel, l'information 24/24, on doit tout savoir tout de suite, tout le temps. C'est quelque chose qui met une espèce de pression en permanence aux parents et du coup maintenant aux enfants. Je vous rappelle que récemment, on a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas Instagram enfant. Enfin, c'est quand même l'idée vers laquelle on va. Les métavers, enfin, toutes ces choses-là font qu'on est relié à cet écran en permanence pour plein de raisons et qui sont très éventuellement traumatisantes avec... aujourd'hui, un peu deux populations. Il y a des gens qui continuent à regarder les infos en boucle tout le temps. Et puis, de plus en plus, il y a des gens qui refusent de regarder l'information. C'est-à-dire qui n'ont plus de télé chez eux, ou en tout cas qui l'utilisent comme un écran pour regarder des films autres. Donc on est dans quelque chose de bizarre, avec des gens clivés, des populations beaucoup plus clivées, moins de liens sociaux aussi, parce qu'on a plus de mal à se comprendre sur des choses comme ça. Et la contradiction des informations, c'est aussi quelque chose qui va très vite. Hein. Brutalement, là, il y a quelques jours, c'était les puces de lit à Paris. C'est une catastrophe aux Jeux Olympiques. Trois jours après, il y a un attentat. Puis les puces de lit, bien évidemment. Et puis dans trois jours, ça sera autre chose. Donc c'est difficile d'avoir une pensée continue pour se développer là-dedans. Alors, toujours les photos des ateliers. L'enfance, l'adolescence, c'est notre société. Il y a une chose qui est compliquée dans notre société, c'est l'image. On est quand même de plus en plus soumis à l'idée que les images sont partout, tout le temps, les enfants tout le temps, les écrans c'est tout le temps. En plus, on multitâche, donc sans arrêt en train de regarder éventuellement deux écrans. Professionnellement, on a souvent deux écrans devant nous, hein, notre portable, le téléphone et l'ordinateur, mais on peut même avoir deux ordinateurs. Alors c'est compliqué parce que ça développe une pensée de type rapide, fluide, mais aussi fragmentée, automatique. Et qui fait que les régions du cerveau qui sont plutôt impliquées là-dedans sont des régions plutôt élémentaires, hein, on va dire. Et finalement, si tout ça va trop vite, on ne sollicite pas tellement la région du contrôle. Hein, et on va perdre un petit peu cette partie, on va dire, civilisationnelle de notre cerveau, celle qui nous permet d'avoir des informations, puis de les filtrer, de se dire bah, « Tiens, ça, c'est pas important, je les enlève. Ah, ça m'intéresse vachement, je vais creuser. » Ça, bah tiens, ça fait lien avec ça, c'est vachement intéressant. Cette partie-là, elle a beaucoup plus de mal à fonctionner si on n'arrête pas de lui mettre des informations tout le temps. Et finalement, cette stratification en arborescence des connaissances sur Internet, vous commencez un truc, tac, ça vous met sur autre chose, tout, ça vous met sur autre chose, hop, ça... finalement, au bout d'un moment, c'est plus vraiment ce que vous cherchez. Et ce qui est difficile, et surtout dans le développement du cerveau de l'enfant, hein, on a bien vu ce matin, jusqu'à 25 ou 26 ans, le cerveau se développe, ce que disait Boris, eh bien, notre mémoire de travail va être rapidement saturée. Et si elle est vraiment très saturée, elle ne peut pas envoyer dans la mémoire à long terme des connaissances stratifiées, hiérarchisées, qui sont des connaissances. C'est-à-dire quelque chose, une connaissance, c'est quelque chose qu'on s'est approprié, qu'on a digéré, on a notre avis sur l'histoire. On va pouvoir la comparer avec autre chose. Tiens, ça, je la mets dans mon idée, mais je ne suis pas d'accord. Moi, la psychopathologie, c'est important pour moi, ça, vraiment. Mais par contre, telle chose, ça c'est vraiment intéressant, je vais pouvoir le mettre en lien ou pas en lien. Ça, je ne vais plus pouvoir le faire si je suis alimenté comme ça sans arrêt. On ne va pas pouvoir construire des connaissances personnelles. Ça va être beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, les parents sont en grande difficulté avec ça. Parce que s'ils n'arrivent pas à gérer cette histoire de surinformation permanente, y compris par Pronote, qui à 2h du matin vous explique que le prof de gym qui était absent, en fait, il va être là. Et donc, à 8h du matin, vous aviez prévu que le petit, il allait chez le grand-père, et merde, le prof de gym est quand même là. Alors, vous êtes obligé de dire, bah non, tu vas aller en gym, et il pique la crise. Bah non, enfin, tu m'as dit que j'allais chez papy, on a prévu déjà de faire ça. C'est-à-dire que tout est instantané, hein, dans plein de domaines, hein, on pourra y revenir. Donc, la difficulté pour les enfants, c'est trop vite, trop tôt, trop de choses à intégrer, avec trop de variables, ce qui mène en général à quoi ? À des phénomènes quasi traumatiques, c'est-à-dire une explosion. Si j'en ai trop dans la tête, j'explose, je n'arrive plus, je craque, ou alors j'inhibe, je fais plus, ou alors j'y dépends, carrément. J'inhibe. Alors c'est difficile parce que certains parents sont complètement démunis vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette hypersensorialité qui est partout autour des enfants et qui provoque des enfants qui ont aujourd'hui des troubles d'hypersensorialité. On met en mille feuilles des troubles qu'on additionne, on n'est pas de crème entre. C'est ça, finalement, de réfléchir à quelqu'un. Il a ça, mais qu'est-ce qui est la crème qui va entre tous ces troubles pour en faire une personne, ce qu'on disait ce matin, le rencontrer, partager avec lui, et essayer de comprendre ce qui se passe. Eh bien, ce trouble hypersensorialité, à mon avis, il est très alimenté par le fait qu'on surstimule beaucoup les enfants très tôt. Autant, il y a eu un moment où ils ne stimulaient pas assez, maintenant on va les surstimuler. Enfin, moi, quand on est à Paris et qu'on voit le matin un gamin qui va à la crèche en kangourou, dans une ambiance de métro surchargée, bondée, d'un boucan sans arrêt, des pubs qui passent dans les stations très fort, on est dans une hypersensorialité dès le départ. Et dans la vie du quotidien, si vous y réfléchissez, vous voyez que c'est vraiment un truc important. Même en crèche, moi je supervise plusieurs crèches, les dames qui y travaillent disent qu'on leur demande parfois, elles ont l'impression de trop stimuler les enfants. C'est-à-dire qu'un enfant, il ne peut pas pleurer 3 minutes dans un lit, il faut tout de suite y aller et lui proposer quelque chose à faire. Sinon, le parent a l'impression qu'on abandonne l'enfant et la direction dit non, il faut absolument stimuler les bébés. Donc il y a quelque chose, moi je trouve, qui s'emballe. Ça s'emballe. Donc du stress, de la pression. Alors la psychopathologie, aujourd'hui, des plus vulnérables, on va dire. Moi, je pense qu'il y a des invariants, on les a vus ce matin. Les troubles du neurodéveloppement, ils ont beaucoup augmenté, l'autisme a augmenté, mais maintenant, on est au pourcentage habituel, parce que aussi les catégories diagnostiques ont changé, et puis que vraisemblablement, il y a peut-être aussi une augmentation en fonction de facteurs environnementaux. La schizophrénie, un certain nombre de choses sont, à peu près câblées. Ça fait partie des troubles qui ne sont pas extrêmement fréquents, mais qui sont très graves pour certains et qu'il faut vraiment traiter de façon active. On pourra y revenir. Et puis, pour moi, la nouveauté, c'est un peu les troubles qui sont, comme je vous le dis, mis en strates sans crème au milieu du millefeuille. Alors, il y a les hyper-tout, hyper-émotionnels, hyper-sensibles. Hyper agité qu'est-ce qu'on fait de ça sinon, enfin c'est pas un handicap d'être très sensible par exemple. Donc comment on travaille avec ce diagnostic d'hypersensibilité avec un parent, de quelle manière, c'est pas quelque chose d'évident. Pour moi, beaucoup d'enfants sont intégrés dans une catégorie qu'on pourrait appeler les pathologies limites de la personnalité, c'est-à-dire qu'elles sont centrées par des angoisses d'abandon, des craintes d'être abandonnées, et un mouvement persécutif dès qu'on sent que la séparation va arriver pour réactiver l'autre, éventuellement une crise émotionnelle, voire motrice, quand il y a une séparation, parce que le lien continue d'exister, c'est pas construit d'une manière tranquille, on va dire. Et ces enfants-là, ils sont difficiles à soigner, on y reviendra. Autre catégorie très importante, qui a augmenté, le TDAH, hyper tout là aussi, le refus scolaire anxieux, qui est vraiment en train d'augmenter, je ne sais pas dans 0,4, mais moi dans 0,5, je trouve ça absolument affolant, avec un certain nombre de jeunes qui sont dans des crises de panique pour aller au collège, notamment, mais derrière, des situations très diverses. Certains sont juste dans la manipulation, d'autres sont dans des pathologies dépressives graves, avec malheureusement parfois des suicides, malheureusement il y en a qui meurent, c'est pas une plaisanterie. D'autres qui sont dans des modalités plus hystériques, on va dire, de défense. Enfin, il faut aller creuser derrière le symptôme qui est le même, présenté quasiment de façon caricaturale pour tous ces enfants. Et qui déroute beaucoup les adultes, notamment l'éducation nationale, parce que c'est quand même pas évident de voir toute une population de jeunes qui n'arrivent pas à aller à l'école, alors que franchement, l'école, c'est le lieu de la culture. C'est le lieu où on peut jouer, c'est le lieu où on rencontre les copains, c'est le lieu de la socialisation, et ça, ils n'entendent pas, ceux qui sont en refus scolaire anxieux. Ils vous disent, c'est un lieu traumatisant, je suis harcelé, j'ai pas envie d'y aller, je peux rien échanger. Le harcèlement est aussi au centre des débats, je vous ai mis quelques chiffres que vous connaissez, mais qui sont quand même un peu inquiétants. Alors, ce mot a été aussi mis à toutes les sauces, mais aujourd'hui, vraiment, quand on écoute des jeunes qui se disent harcelés, ce qu'ils vivent sont vraiment des choses extrêmement préoccupantes. Avec, pour ceux qui diffusent par exemple des images sur les réseaux sociaux, pour un certain nombre, une incapacité à comprendre qui blesse vraiment l'autre. Ce qu'on disait du clivage de la pensée tout à l'heure. Si vous consommez très tôt des images pornographiques où le but est de montrer une femme qui souffre, qui a mal et où vous filmez ses blessures à la suite, et que vous le consommez régulièrement, un certain nombre de jeunes ont l'impression que c'est un mode d'emploi de la sexualité et que finalement une fille qui n'est pas capable d'accepter ça va. Elle n'est pas normale dans sa sexualité, donc on va lui envoyer des trucs comme ça pour qu'elle puisse arriver à être normale ou pour dire qu'elle est vraiment nulle parce qu'elle n'est pas normale. Sans aucune empathie et sans conscience que la sexualité, c'est pas ça, l'amour, c'est pas ça, et que c'est pas le mode d'emploi de la vie du quotidien, et qu'on va pouvoir faire très mal à quelqu'un en envoyant une photo comme ça. C'est difficile parce qu'il y a un saut, il y a un gap entre les journaux qu'on pouvait lire autrefois, les petites choses qu'on pouvait aller voir au cinéma porno en cachant sa carte d'identité, et ce truc qui est quelque chose de quotidien et de extrêmement fréquent et qui est consommé dans la cour du collège sous le manteau. Très difficile. Donc moi j'ai quand même l'impression d'une jeunesse qui est un peu sous tension actuellement, hein, avec des personnes âgées qui sont aussi sous tension parce qu'elles n'ont plus tellement de place dans la société. C'est pour ça que tout ce qu'on a dit ce matin sur les lieux associatifs, être dans la communauté, dans le socius, tout ça c'est extrêmement important bien évidemment. Et puis des inégalités qui se creusent, c'est évident. Je vous rappelle quand même que les gens qui ont créé le GAFA, ils mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a plus d'écran. Débranchent les portables et ne leur en donnent pas sur Internet. C'est-à-dire qu'on a créé une marchandisation terrible de tout ça, et on se rend bien compte que même ceux qui l'inventent se disent que c'est dangereux. Et c'est vrai. Donc, il y a un clivage des gens qui arrivent à gérer ça, à mettre des petites limites, à en discuter, et puis ceux qui sont complètement dépassés ou qui consomment aussi. Et donc, il faut s'adapter. Quand on est dans le soin, en pédopsychiatrie, il faut s'adapter, il faut inventer, ça a toujours été comme ça, mais il faut encore plus. Bien évidemment, il faut travailler avec les familles. On ne peut plus, enfin, ce qu'on disait ce matin, la rencontre, elle est essentielle. Et en pédopsychiatrie, la rencontre avec les parents, elle est essentielle. On ne peut pas travailler sans les parents, bien évidemment. Et bien évidemment, avec les réseaux, les associations, etc. Et moi, j'ai l'impression que le mot crise, aujourd'hui, revient sans arrêt chez les parents quand ils vous amènent un enfant. Il fait des crises de colère, il est en crise. Il se met en crise pour aller au collège. C'est avec des menaces suicidaires, y compris chez les très jeunes enfants. C'est-à-dire, Boris avait écrit ça il y a des années, mais moi je n'étais pas d'accord avec lui à l'époque, sur le suicide des enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils se suicident, c'est qu'ils menacent de mourir. C'est qu'ils ont compris que dire à un parent « je vais me tuer, j'en ai tellement marre que je vais me tuer », ça va provoquer quelque chose. Ça va être un drame dans la famille, tout le monde va se mobiliser. Mais c'est quand même un degré, vous voyez, de langage qui n'est pas tout à fait rien. Et aujourd'hui, on sait que les adolescents, objectivement, statistiquement, ils ont plus de consultations, ils vont plus mal dans certains domaines, la dépression notamment, les tentatives de suicide, que après le Covid, on l'a vu ce matin, les urgences ont été vraiment envahies par des gens, et notamment des adolescents qui n'allaient pas bien. Donc en pédopsychiatrie, objectivement, moi je ne connais aucun endroit où les gens ne sont pas en train de se dire « mais par quel biais on va arriver à voir tout le monde ?» Parce que il y a une vraie demande et des gens qui vont vraiment mal. Ce n'est pas une plaisanterie. Par contre, il y a toute une population de jeunes qui va très bien, qui se dépatouille complètement de cette société, qui trouve des choses très créatives sur Internet, qui ont des chaînes fantastiques. Il y a ça aussi. Et ça, c'est très très bien. Mais il y en a une partie qui supporte assez mal. Alors, j'ai fait juste 3 diapos. Je dirigeais un grand service avant à Paris, avant de faire un grand virage et d'arriver dans les Hautes-Alpes, qui est vraiment l'exemple de la désinstitutionnalisation. La Fondation Vallée, vous voyez, 1885, un instituteur, Hippolyte Tranquille Vallée, donne sa maison de campagne dans laquelle il avait fait une espèce d'institution pour les enfants riches qui avaient des problèmes scolaires, et il la donne aux enfants des villes des pauvres. Et donc la préfecture de la Seine récupère ce truc-là et se met en place quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez, la leçon de choses dans le jardin de la Fondation Vallée en 1885, on se croirait avec Freinet, quoi, il y a déjà une psychopédagogie. Quelque chose de très original, un atelier. Bourneville y arrive, donc Désiré Magloire Bourneville, vous connaissez ce grand neurologue qui arrive à Bicêtre, qui s'occupe des épileptiques très graves à Bicêtre et qui, à la Fondation Vallée, monte des ateliers pour essayer que les enfants comprennent le temps en plantant des choses selon les saisons. Donc vraiment un truc tout à fait original. Et puis les choses dégénèrent. En 1949, on est avec 230 enfants, beaucoup, que des filles à l'époque. Et vous voyez l'organigramme, là, un peu déjà des gens, des hôpitaux un peu plus, mais surtout l'organigramme des diagnostics. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a 68 enfants gâteuses, c'est-à-dire qu'elles sont dans leur lit et en gros polyhandicapées, et puis des enfants qui sont scolaires un petit peu, puis des non-éducables mais propres, des classes techniques. Bon, quand on reprend les registres diagnostiques de la main de Désiré Magloire Bourneville, il y a des trucs assez beaux. Et en fait, cette institution a brutalement changé dans les années 57, où Roger Mises, qui est mon maître, alors c'est comme celui de mon collègue italien, on en rencontra une fois dans sa vie, c'était vraiment un très très grand monsieur. Lui, quand il est nommé, d'abord, quand il racontait ça, il est décédé malheureusement maintenant, Ben, il y avait encore les larmes aux yeux. C'est-à-dire, quand il est arrivé à la Fondation Vallée, il y avait des salles d'enfants, certains étaient camisolés, on en nourrissait sur des chaises percées, on décamisolait des gamins pour les nourrir, puis on les recamisolait après, et lui, il a juste dit, bah, si on allait lui faire manger sans qu'il soit camisolé, on va peut-être essayer de décamisoler un moment. Les infirmiers de l'époque, qui étaient très peu nombreux, ils disaient, ah non, surtout pas, il va taper tout le monde. Donc il est arrivé là-dedans, il était découragé, vraiment, et puis c'est toujours pareil, c'est l'histoire qu'on rencontre dans la vie. Il a rencontré une surveillante qui, elle, a dit, mais vous savez, j'ai l'impression qu'il y a même quelques enfants qui sont... On pourrait faire quelque chose avec eux. Et peu à peu, peu à peu, en 70, le secteur de pédopsychiatrie est né, donc avec tout ce qu'on a dit de du secteur, de ce que ça représente, il a fait une véritable révolution architecturale en resegmentant les enfants, en faisant sortir ces enfants qui étaient chroniques, qui n'avaient rien à faire là. Pour certains, ils avaient des pathologies neurologiques, donc pas psychiatriques. D'autres enfants, bah, il y avait vraiment un handicap moteur. Tout ça a été remis en perspective et vous voyez en bas des pavillons où il avait essayé de remettre en place quelque chose d'un peu plus familial avec des équipes où il y avait des groupes où il y avait beaucoup d'éducateurs. Il a fait rentrer énormément d'éducateurs, des psychologues, des psychomotriciens, c'est vraiment des équipes multidisciplinaires et un trépied qu'il appelait la cure en institution à l'époque, du thérapeutique, du pédagogique et du scolaire. Tout ça dans une multidisciplinarité importante. Et l'idée qu'on pouvait ouvrir, c'est-à-dire que la télévision à l'époque était venue dans la Fondation Vallée pour qu'on explique comment on travaillait avec les enfants. C'est-à-dire que c'était pas caché, c'était ouvert et c'était travaillé. Mais il y avait encore pas mal de lits. Et puis, moi, quand j'ai repris le service en 2001, on a progressivement, on a essayé de s'adapter à tout ce qu'on a raconté. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut s'y adapter encore mieux, sans doute. On a changé complètement architecturalement les murs, ce que vous êtes en train de faire à Digne. C'est important quand on est dans une institution avec des enfants qui sont là temps plein. Pourquoi on a des enfants temps plein dans ces lieux-là? Parce que, par exemple, ce sont des enfants autistes extrêmement violents, dont les parents n'arrivent absolument pas à prendre en charge la violence, dans des situations sociales catastrophiques. On vit à 5 dans 2 pièces, dont un enfant qui s'automutile en permanence, par exemple. Il y a l'idée qu'on va garder un certain nombre de lits, mais vous voyez qu'ils ont été énormément diminués. L'hospitalisation de temps plein a été énormément diminuée, on peut être 260 à 90, vous voyez. Par contre, on a créé des nouvelles unités différentes, notamment un service d'urgence, qui peut arriver à recevoir notamment les adolescents en urgence et travailler en lien avec la pédiatrie, ce qui me semble essentiel. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas de lit d'urgence, de pédopsychiatrie, mais où il y a une liaison aux urgences et la pédiatrie assume l'hospitalisation en lien avec les pédopsychiatres qui y viennent. C'est un autre cadre de travail et c'est excellent. Plus il y a de multidisciplinarité, plus on se comprend, mieux c'est. Et puis on a créé aussi d'autres choses comme le centre du tout-petit, qui est l'équivalent d'un CMP, mais pour bébés. C'est vraiment la prévention de tout ce qui peut être amené par le psychiatre de l'adulte qui dit « ma patiente est enceinte, elle a un enfant, et là je vois bien que déjà les interactions ne vont pas ». Ou d'autres problèmes. Le centre diagnostic autisme est délié des CATTP, des CMP, c'est-à-dire qu'on a vraiment multiplié l'ouverture vers l'extérieur, ce que Roger avait vraiment mis en place déjà, puisqu'il avait créé le premier hôpital de jour, le premier CATTP, dans l'idée de ces pathologies limites qui n'étaient plus l'autisme, lui à l'époque c'était les psychoses déficitaires ou autres, mais des pathologies qui articulaient des conflits dedans, dehors et qui nécessitaient une ouverture vers l'extérieur. Alors, il y a par contre un truc qui est certain, j'ai bientôt fini, c'est que l'ambulatoire consomme autant de moyens que l'hôpital et le lit temps plein, mais pas les mêmes, pas de la même façon. Mais ça demande des gens extrêmement formés, parce que parfois il y a de l'insécurité et il faut qu'ils soient formés à ça, et ça demande un certain nombre de gens. Alors, avec ou sans lit, moi je dirais qu'aujourd'hui, il faut inventer. C'est ça le problème. C'est que ce qu'on a comme pathologie chez les jeunes, les enfants et les grands, c'est tellement particulier et nouveau dans certains domaines qu'il faut à la fois être dans le cure, ça c'est le dur de la psychiatrie, on est dans le soin, et dans le care, c'est-à-dire de prendre soin. En pédopsie, on prend soin aussi des familles, des parents, et le pédopsychiatre, il a sa place là-dedans, comme le psychologue, comme le psychomotricien, on travaille ensemble, en équipe, on fait parfois des groupes avec deux professions différentes. Et pour ça, vous voyez, je vous ai dit, attention à l'homogénéisation, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit dans la haute couture, c'est évident. L'idée qu'on va avoir moins de temps, c'est plus pratique, on va avancer plus vite. Non, il nous faut du temps pour penser. Si on ne pense pas ce qu'on fait, au bout d'un moment, on dysfonctionne, particulièrement dans cette société qui va très vite et où les enfants nous amènent un symptôme, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Si on ne relie pas les couches du millefeuille, on a tôt fait de les mettre sous l'antidépresseur, sous Ritaline, puis sous l'antiseptique, en disant à chaque fois que ça ne marche pas, que ça ne marche pas, que ça ne marche pas. Et les lieux de, au reste devraient rester protecteurs, tolérants, contenants, et clairement irremplaçables pour certains, parce que je pense vraiment, pour moi, hein, et c'est ce qui est fait en Italie d'ailleurs, hein, dans l'hôpital général, et puis ces lits où on peut dormir dans le CFP. Moi, je suis assez d'accord sur l'idée que ça soit dans la communauté. Dans notre culture, c'est plus compliqué, mais je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est très intéressant. Mais il y a un certain nombre de lits incompressibles. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'adolescents qui ont besoin d'être séparés de leurs parents. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas. Parce que la crise est telle que, de toute façon, ça va s'aggraver au point de mener à des guerres qui, ensuite, seront irrécupérables dans leur monde. Donc, cette possibilité d'avoir un moment de mise à distance où on peut travailler avec les familles, mais des lits d'hospitalisation me semble quand même très important. Alors, pour finir, quelques photos. Je pense qu'il faut provoquer l'exceptionnel. Vous voyez, en haut, quand j'étais à la Fondation Voyer, j'avais fait des séjours d'enfants autistes qui grimpaient en salle à Paris, et on les a amenés pendant plusieurs années grimper ici. Et c'était exceptionnel, et c'est quelque chose qui est resté dans leur tête. Comme fondateur de quelque chose qu'il pouvait vivre corporellement, un autiste a beaucoup de mal à articuler son corps, l'escalade ça permet ça, mais alors à la montagne en plus, il y a quelque chose d'une articulation formidable du lien avec les équipes qui ont un tel investissement qui les accompagne. Vous voyez en haut à droite et en bas à gauche ces clubs inter-âges dont on a parlé tout à l'heure. En bas, beaucoup d'expériences qui sont faites de jeunes qui vont mal, qui sont hospitalisés ou qui sont dans des processus de soins, CATTP, hôpital de jour, mais qui font des ateliers dans un collège avec des gamins qui, eux, n'ont pas de soins. Par exemple, des spectacles de gym communs ou que sais-je. Des tutorats de jeunes qui sont en trouble du comportement sans être pris en charge au collège et qui accompagnent des jeunes autistes dans la gymnastique, par exemple, et ça donne des choses extraordinaires. Et puis, des choses comme ça qui, moi, m'ont pas mal intéressé, parce que mon compagnon est artiste, et il a fait un certain nombre d'ateliers transgénérationnels. Je trouve que c'est assez important de garder des symboles de l'histoire. Ça, c'est la cheminée de l'usine Péchinet d'Argentière. L'usine a été démantelée à un moment, ça a été une crise pour cette ville qui s'est réorganisée la suite de façon très difficile. Et l'atelier transgénérationnel a uni des jeunes du lycée, du collège, et puis des anciens ouvriers de Péchinet qui étaient à la retraite et qui ont monté sur le mode des sculptures enflammées, vous voyez, une maquette en bois. On soude des choses autour qui sont toutes symboliques. Chacun amène quelque chose, réfléchit à quelque chose, et symboliquement, on refait cette cheminée, puis on l'enflamme et elle reste à la suite présente. Et c'est très important parce que dans ces ateliers, ça s'est passé à Vennes sur le même principe. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien le détail en bas à droite, dans le transgénérationnel, l'idée là, c'était la rotonde SNCF Vennes, c'est un nœud SNCF qui a été détruite, un grand bâtiment SNCF. Et là aussi, il y avait des jeunes malades vraiment psychiatriquement qui sont venus, des jeunes de collège, des personnes âgées, etc. Et on leur demandait, c'est quoi pour toi le train? C'est quoi pour vous le train? Et il y a un groupe de jeunes, on ne voit pas bien malheureusement, qui avait dessiné le train, c'est toute la famille prend le train, y compris le grand-père qui est dans son fauteuil à bascule, mais qui est dans le train quand même avec eux. C'est-à-dire que travailler sur le symbole, ça réanime la pensée. Il faut retrouver du sens à la vie. Vous savez, le film « Le sens de la fête » avec Pacri, il est extraordinaire ce film, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses complètement délirantes, et on essaye perpétuellement d'essayer de retrouver du sens à cette fête qui est dingue, et on peut trouver des petits bouts de sens, chacun à son sens. Eh bien aujourd'hui, je pense qu'on a du mal à trouver parfois le sens de notre vie, et je vous ai laissé moi aussi une citation d'Einstein que j'adore. Parfois dans la vie, hein, quand on dit des lits, pas de lits, des troubles, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplifier les choses complexes le plus possible pour les comprendre, pour échanger, pour parler pareil. Mais il ne faut pas les simplifier le plus que possible. Je vous remercie de votre attention.